dernière séance.
Action. Ce crayon, je vais le faire disparaître.
Tada! Je suis Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Un mardi sur deux, 21h, 22h.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà.
Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur.
Dernière séance.
Fuyez, pauvre fou.
L'émission ciné et série de Radio Campus Angers.
À la bonne heure. Ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga.
Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans la dernière séance votre rendez-vous cinéma de Radio Campus Angers. Le rendez-vous cinéma, il porte bien son nom cette semaine puisqu'on est en direct du centre des congrès pour le festival Premier Plan. Une grosse émission qu'on va avoir ce soir avec toujours la même équipe, Emma, Antoine, Malo, Baptiste, Capucine. Une grosse équipe et on a un guest, un grand guest qui est jury court-métrage aux côtés de Claude Barras et Nina Meurice. C'est Christelle Alves-Mera, réalisatrice et scénariste franco-portugaise. Bonsoir Christelle.
Bonsoir à tous.
Bienvenue sur notre plateau, bienvenue à Premier Plan. Donc vous êtes pendant plus d'une semaine presque dans le jury court-métrage. Comment ça se passe pour l'instant ?
C'est un vrai voyage en fait, c'est très intense. Là on est au quatrième jour, on voit entre 2 à 3 programmes par jour. Je m'entends très bien avec Claude et Nina, on voit de très belles choses et j'en ai plein la tête, beaucoup d'émotions.
Ouais.
Et voilà, c'est une expérience assez extraordinaire. C'est la première fois pour moi où j'étais jury dans un autre festival, mais c'était plus petit. Là, c'est très dense. Il y a une vraie responsabilité aussi.
Ouais.
C'est un festival qui me tient vraiment à cœur. J'ai commencé ici.
Vous étiez venue en 2015, il me semble, non ?
Ouais, ouais, je suis venue, je pense, je sais pas les dates, mais environ 2015, en tout cas avec mon premier court-métrage que j'avais auto-produit.
Ouais.
Je sortais de nulle part et Premier Plan, c'était vraiment le lancement. Et ensuite, j'ai fait un deuxième cours et un troisième qui va être d'ailleurs présenté là samedi.
D'accord.
Et à chaque fois, donc, Angers me suit dans les plans suivants, en programmation sur les plans suivants. Et aussi, j'ai eu la chance de pouvoir participer aux ateliers d'Angers pour mon long métrage.
Okay.
Donc il y a une vraie, un compagnonnage avec le festival. Et quand je vois ces films, ces premiers films, ça m'émeut vachement.
On en parlera un petit peu de votre long métrage après. Le but du jury court-métrage, c'est donc de décerner le meilleur court-métrage européen, le premier court-métrage européen et français, c'est ça, il y a les deux ?
Alors, il y a 6 prix.
6 prix, ok.
Meilleur court-métrage européen, meilleur court-métrage européen de film d'école,
ouais.
Grand prix du film français, meilleure interprétation masculine et féminine sur le cinéma français.
D'accord.
Et plan animé, attention, et aussi grand prix du film d'animation.
Ah oui, donc
nous avons 6 prix à remettre.
Donc, grosse responsabilité, oui.
Ouais.
Ok.
Alors nous, on se demandait, est-ce que du coup, il y a des critères sur lesquels vous vous basez pour effectuer du coup cette sélection ?
Alors c'est une très bonne question. Depuis 2 jours environ, on essaye de façon un peu informelle avec mes autres membres du jury de trouver des critères. Mais on ne les a pas encore complètement formulés. On va délibérer ce soir pour la première fois. D'abord, on se laisse porter par tous les films. On voit comment le film fait un chemin au fil des jours. Qu'est-ce qui reste ? Quel film remonte dans nos souvenirs ? Est-ce que c'est les mêmes ou pas ? Et je pense que les critères vont vraiment plutôt se définir ce soir. Même s'il y a des évidences, en fait. On sent que sur certaines sections, on a déjà vu tous les films, sur 2 sections, on est déjà presque déjà sûr de ce qui va se passer.
Le fait d'être passé par cette case de premier film aussi, vous avez aussi dû présenter votre court-métrage, vous comprenez un petit peu la situation de ces réalisateurs, peut-être qu'ils sont stressés la première fois de monter sur scène, etc.
Ah bah oui, je la comprends 1000 fois. Et puis moi, je suis encore stressée quand je rentre sur scène. Hein. mais c'est super. Après, je suis par exemple très étonnée. La section des films d'école, il y a une qualité de film qui est vraiment, vraiment très surprenante. Et il n'y a pas assez de prix. On aimerait vraiment pouvoir donner plus de prix et surtout encourager tout le monde, bien sûr. Mais on voit de très belles choses et c'est dur de devoir en primer qu'un.
C'est très personnel souvent ce qu'ils racontent dans les courts-métrages ou pas ?
Oui, y a des thématiques qui reviennent beaucoup.
Ouais, lesquelles par exemple ?
Alors par exemple dans les films d'école, la question des youtubeurs, de se filmer, de monter sa chaîne, on a vu au moins 5 films qui traitent du sujet et
d'accord,
5
ouais.
films complètement différents. Mais c'est générationnel donc c'est intéressant. Par exemple moi, ma génération n'avait pas cet outil. Donc c'est voilà. Après, sur les premiers films européens ou français, c'est souvent des jeunes personnes les protagonistes, c'est-à-dire soit des ados, soit des enfants. C'est rare de voir un protagoniste plus âgé en premier rôle. En tout cas, ça arrive, mais il y en a moins. Mais ça, je pense que c'est que souvent, dans un premier film, et je parle pour moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, y a souvent comme un... Comment dire, un effet miroir entre le réalisateur et le personnage qui met en scène ou qui raconte. Ouais.
Je voulais savoir, est-ce qu'on reconnaît facilement un court-métrage qui a le potentiel de devenir un long-métrage dans son intrigue ou pas du tout ?
Je ne sais pas si... Je ne penserai pas dans ces termes. Je ne me dis pas le court-métrage peut devenir un long. En revanche, on sent s'il y a un cinéaste et s'il y a vraiment du cinéma. Alors, ça peut paraître un peu étrange. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a du cinéma dans ce film ? C'est qu'on sent en tout cas une singularité, une vision, une grammaire et de l'émotion parce qu'avant toute chose je crois que dans une salle de cinéma on a envie d'être porté vers de l'émotion et ça dépasse en fait l'aspect scolaire parce que parfois on fait tout très bien mais ça redonne un film un peu distant ou en tout cas lisse et, ouais, et quand on sent qu'il y a une possibilité de, ou en tout cas on a envie de rester dans la salle, on a envie de continuer à voir le film, on se dit tiens c'est quelqu'un qui pourrait passer au long, ouais. Et ça, c'est un critère important, en tout cas sur le Grand Prix européen ou français. Ça, c'est un des critères. Le tremplin vers autre chose. Enfin, y a un cinéaste qu'on a envie d'accompagner, de continuer à voir ses films.
Ouais. Vous avez un gros programme, vous l'avez dit, en tant que jury du court-métrage. Est-ce que vous avez le temps de voir d'autres films ou pas ?
Bah non, pas ici, mais c'est dommage parce que quand j'ouvre le catalogue, je me dis « Ah, j'aimerais voir ça. » Et non, malheureusement.
Expérience positive, en tout cas ?
Très positif, très très positif. C'est, ouais, je suis très contente, vraiment.
Pour finir, du coup, est-ce qu'on sent vraiment les différences culturelles dans le film ? Par exemple, est-ce que les films des pays de l'Est ont une teinte, que les films français vont avoir une teinte ? Est-ce que c'est très marqué ou pas ?
Bah, en fait, étrangement, je pensais que ça le serait plus. Ça l'est pas tant que... Enfin, c'est faux, bien sûr. Pardon, si on pense au programme européen, c'est très marqué, oui. Vraiment, culturellement, il y a des films extrêmement différents. Après, dans les films d'école, donc plus jeunes, non, il y a des choses qui reviennent comme une culture, en fait, universelle. Et même dans l'architecture, dans la façon de filmer, dans le choix des décors, on sent des choses qui reviennent, comme des images d'Épinal. Enfin, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui reviennent très souvent, ces immeubles, ces barres d'immeubles. On ne sait plus si on est en Pologne ou on pourrait être aussi en banlieue parisienne. Les téléphones portables, ils sont partout. Donc, pas tant que ça. Pas tant que ça.
Est-ce que vous avez vu des films d'époque, un petit peu, qui parlaient, non ? C'est tout le temps dans nos années, quoi, non ?
Ouais, ou ouais. Bien, il y a un film d'école, c'est genre les années 90, ils écoutent des cassettes, quoi. Mais okay. Films d'époque, ça doit coûter un peu cher quand même. Là. C'est...
Okay. Oui, oui.
Je pense que c'est la limite, elle est là. Hein. Et pas beaucoup de films de genre aussi. On a une comédie romantique dans les films d'école, mais sinon, y a des tentatives de genre, mais très peu. Voilà, ça aussi, ça dit des choses sur le cinéma à venir. Enfin, pas beaucoup de films de
beaucoup
genre.
Beaucoup de films expérimentaux ?
Pas expérimentaux, non. Mais des films, comme on pourrait dire... des films intimes avec des histoires humaines, films d'auteur, tu vois, réaliste, okay. Films d'auteur réaliste.
Comme elle l'a dit, c'est souvent des films miroirs, les premiers courts-métrages, ça fait écho à la vie directement de l'auteur. Du coup, pour finir, dernière question, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos projets ? Où est-ce que vous en êtes ?
Oui, je tourne dans 3 mois mon premier long-métrage.
D'accord.
Voilà, et donc là, je présente samedi à 14h ici le 3e cours que j'ai fait.
Qui s'appelle Invisible
Héros. Héros.
Okay. Je ne le dirai pas en portugais, mais...
Oui. Vous pouvez le dire en portugais ?
Invisible Héros. Okay. Invisible Héros. Le protagoniste est un homme de 50 ans aveugle. Et je me suis amusée sur le genre, justement, entre le docu et la fiction.
Ok.
Parce
que vous venez du documentaire, hein. Vous avez fait 2 documentaires tout début.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je viens du documentaire. Après, j'ai fait... En fait, même dans mes fictions, oui, il y a une approche un peu réaliste. Okay. C'est cinéma du réel. Mais là, ça va plus loin. Enfin, je vous invite à le voir. Et puis, le long métrage que je tourne dans 3 mois. Et ça,
d'accord.
Je suis très heureuse. C'est tout un... Mais grâce aux ateliers d'Angers, d'ailleurs, parce que j'ai fait donc, au Festival d'Angers, tu as les ateliers d'Angers qui sont donc une semaine où des réalisateurs préparent leur premier long. Ouais. D'ailleurs, Lucas Donce, Lucas Dont, qui est dans le jury long métrage et qui a fait Girl, était avec moi aux ateliers d'Angers il y a 2 ans. Entre-temps, il a fait Girl, il a fait 450 000 entrées, il était à Cannes, caméra d'or. Donc ça donne de l'espoir, en fait, c'est assez génial. Ouais. On s'est rencontrés là et il vient de Gand en Belgique, il n'avait rien fait et ça a été un grand succès, c'est merveilleux.
Il y a eu des très belles réussites aux ateliers. Hein.
Ouais, ouais,
si on regarde un peu l'historique maintenant, c'est une super initiative.
Vous pouvez nous le pitcher un petit peu le long métrage ou c'est secret ?
Non, je peux le pitcher. Ça s'appelle Bruxas, ça veut dire sorcière en portugais. Okay. C'est une petite fille qui est née en France, qui revient l'été dans son village. Et sa grand-mère a des dons. Elle peut parler avec les défunts. D'accord. Et elle va mourir d'un mauvais sort, voilà. Et elle va donc cette petite fille va être plongée dans un monde un peu magique des croyances locales et d'un héritage particulier. Mais c'est vraiment un film très réaliste, mais qui aborde la question des croyances et de voilà ce qu'on nous transmet.
Bah on espère le voir peut-être en 2000, peut-être pas en 2021,
2022,
mais 2022, ouais. Premier plan.
Il y a des chances.
Et au cinéma.
Ah bah oui, ça jour. C'est sûr, au cinéma en 2022.
Of course.
Merci. Hein.
Merci beaucoup, Christelle Alves-Mera, de votre présence. Et puis bon courage pour cette fin de semaine. Vous allez devoir délivrer 5 prix, c'est ça ?
6.
D'accord.
C'est intense. Hein.
Ouais.
C'est intense.
Bravo à vous.
Merci à vous. Merci, on se fait une petite pause musicale. On s'écoute Arvin Van Buuren, Sunny Days.
Up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last, stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. Needs a shelter, shelter for the night, and this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last, stolen from the life by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying.
Dernière séance.
De retour dans la dernière séance, l'émission cinéma de Radio Campus Angers. Et on fait un petit peu l'actualité cinéma, savoir ce qui sort demain.
Alors, je vais vous parler de trois films qui sortent donc cette semaine. Le premier, Jojo Rabbit, de Taika Waititi. C'est une comédie un peu loufoque sur un petit garçon allemand qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il découvre que sa mère cache une jeune fille juive, alors que lui-même est fervent nationaliste et que son ami imaginaire n'est autre que Adolf Hitler. Un autre film, Les Traducteurs, de Régis Roinsart avec Lambert Wilson. C'est un film sur 9 traducteurs qui se retrouvent enfermés dans une grande et belle maison dans le but de traduire le dernier tome d'un best-seller, sauf qu'il y a une taupe. Quelqu'un a dévoilé la fin du livre et donc la question est de savoir qui est-ce. Enfin, je vous parle d'un film qui est en compétition ici même à premier plan. Le film, c'est Un jour si blanc de, alors attention à la prononciation, Lynur Palmason, si je ne me trompe pas.
Bravo.
Merci. C'est un film islandais, c'est sur un commissaire de police qui soupçonne que sa femme, qui est récemment décédée dans un accident de voiture, avait une liaison avec un autre homme de la région. Et donc, il va rechercher la vérité jusqu'à devenir complètement incontrôlable et obsédé par cette histoire.
Dernière séance.
L'émission ciné et série de Radio Campus Angers.
On est toujours au centre des congrès pour parler du festival Premier Plan. Et on va parler dans cette deuxième partie d'un peu des bénévoles qui permettent de faire fonctionner ce festival. Et on est avec Anne-Lise. Bonsoir Anne-Lise.
Bonsoir.
Que fais-tu dans la vie? Présente-toi.
Du coup, je suis en troisième année de licence de communication à Angers, donc à l'Université catholique de l'Ouest. Et du coup, je suis bénévole aux réseaux sociaux à Premier Plan.
Donc en charge des réseaux sociaux, c'est pas la première année que tu fais ça, je crois.
Non, c'est la troisième année en effet. Du coup, bah, c'est bien parce que j'apprends tous les ans encore plus et du coup, je peux apprendre au nouveau, donc c'est génial.
Et dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a? C'est tous les réseaux sociaux ou il y a juste Instagram ou juste Facebook?
Alors, on est sur les trois principaux, donc Twitter, Facebook et Instagram. Ensuite, Facebook, c'est plus officiel, on va dire. On annonce ce qui va se passer dans la journée, s'il y a des soucis de programmation, on annonce aussi. Ensuite, Twitter, on tweet vraiment toute la journée sur tout ce qui se passe, sur toutes les séances. Et Instagram, c'est plus les photos officielles. Et les stories, on fait un peu ce qu'on veut, en fait. C'est tout ce qui se passe dans la journée.
D'accord, vous avez votre portable sur vous. S'il y a un événement intéressant, une personnalité qui passe.
Ouais, puis on est quand même 18 dans l'équipe, donc c'est assez intéressant parce que vu qu'on est bénévole, on ne peut pas être là toute la semaine.
D'accord.
Et du coup, on tourne beaucoup, donc c'est intéressant.
Ça, vous arrivez à vos coordonnées, ça va?
Ouais, c'est compliqué des fois, mais ça va.
Et dans les stories, vous faites aussi des interviews de réalisateurs? Toi,
ouais.
Tu as fait ça un petit peu?
Oui, bah, exactement. Ouais. J'ai été voir Léa Drucker, donc, l'actrice. Okay. Elle était là pour son film. Sympa. 2. Et la plupart du temps, ils sont super gentils et ils disent oui directement. Dès qu'ils voient les réseaux sociaux, ils sont contents. Donc.
Est-ce que c'est toujours une bonne expérience de faire les réseaux sociaux à premier plan, d'être bénévole aussi à premier plan?
Ouais, moi je trouve que c'est vraiment un festival très familial en fait. On va voir n'importe qui. Par exemple, la programmation, on sait qu'ils sont très occupés. Ils nous accueillent toujours à bras ouverts. Dès qu'on a une question, ils nous répondent. Et je trouve ça très, très accessible en fait.
D'accord.
Je pense que c'est un festival très ouvert.
Vous avez le droit de. Enfin, vous pouvez aller voir des films aussi, hein, parce que bon, vous êtes quand même pris, vous avez possibilité.
Ouais, justement, en tant que bénévole, on peut y aller du coup gratuitement, donc c'est génial, vu qu'on rend service, donc on peut y aller. Et du coup, je suis allée voir quelques films cette semaine. Et c'est
comme lequel? Est-ce que tu as un qui te vient à l'esprit?
Du coup, j'ai été voir, je crois que c'était mardi soir, Psycho Beach, et c'était vraiment super bien. C'était un film en compète, long métrage européen, et j'ai vraiment adoré. Ouais. C'était
d'accord.
Une bonne histoire.
Je suppose parce que vous devez prendre des photos, ou alors vous prenez des photos des photographes aussi pour les publier, les poster, etc. Il y a des problèmes de droits d'image ou de contraintes par rapport à des personnalités qui sont présentes au festival?
Du coup, ça va dépendre. Là, par exemple, on était au photocall. Du coup, c'était elle du jury, c'était lundi soir, il me semble.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on devait faire vérifier les images parce que y a certains du jury ne voulaient pas que les images soient publiées sans une vérification.
D'accord.
Donc souvent, c'est une question d'agent et du coup d'image sur les réseaux sociaux et du coup on doit tout faire vérifier avant.
Donc c'est un peu plus long?
Ouais, ça peut être long parfois, mais c'est vrai que Catherine Deneuve, l'année 2018, elle, ça la dérangeait pas du tout, donc
d'accord.
C'était assez exceptionnel.
C'était plus simple. Ah oui, donc tu as fait Catherine Deneuve, t'as fait
Cyril
Scan, donc t'as un
peu. C'est ça, ouais.
Tu parlais du prix de l'accueil public. Dans l'émission, on a Baptiste qui est aussi bénévole. Baptiste, d'habitude
bonsoir,
chroniqueur.
Bien.
Comment vas-tu, Baptiste?
Ça va super, et toi?
Eh ben nickel. Donc toi, tu es bénévole cette année au 400 coups et tu accueilles le public au 400 coups, c'est ça?
C'est ça. Donc bénévole accueil public au 400 coups. Donc je fais à peu près 6 heures par jour et c'est très sympa. C'est mon premier festival D'habitude, ouais. Je viens en tant que participant depuis 2-3 ans maintenant. Et c'est vraiment aborder le festival d'une autre manière. Et c'est très agréable. Et j'ai le temps d'aller voir des films quand même.
6 heures par jour, ouais, ça fait des grosses journées quand même.
Ça fait des grosses journées. Ouais. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine.
Tu vas plus en cours?
Je vais pas en cours.
D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est agréable de rencontrer le public ou c'est quelquefois un peu...
C'est très agréable. Je salue toutes les vieilles dames avec qui j'ai pu discuter. Je me suis fait beaucoup de
copines. Dis pas ça, on va croire que c'est un festival avec des vieilles dames.
Non, évidemment. Mais non, c'est, les gens sont très ouverts et ça fait plaisir de voir des événements autour du cinéma parce que au moins ça attire du monde, comme je disais la dernière fois dans notre dernière émission. Ça attire des gens qui sont pas forcément habitués à y aller. Ouais. On voit, il y a beaucoup de groupes de scolaires.
De scolaires, ouais.
Et donc c'est bien aussi d'aller voir d'autres films que les films commerciaux qui sont à l'affiche toute l'année. Donc c'est vraiment une belle opportunité.
Tu nous dis que t'as pu voir des films. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier?
J'ai beaucoup aimé Profession Reporter avec Nicholson, qui donne son nom à la rétrospective. Ouais. Parce que c'était un film que je voulais voir depuis longtemps, mais que j'avais vraiment envie de découvrir sur grand écran et en 35 mm en plus. Donc non, sinon pour l'instant j'ai pas été déçu du tout. J'ai vu Zodiac aussi qui était assez incroyable, mais ça a toujours beaucoup plus de charme dans une salle de cinéma que devant sa télé, quoi.
Tu le refais l'année prochaine?
Je refais l'année prochaine. Ouais.
Ouais. Tu toujours dans l'accueil public ou peut-être autre chose?
Accueil public, ça me plaît bien. Puis vu que comme ça la semaine de cours n'est pas présente dans ma vie, c'est assez sympa.
Pour une semaine dans l'année, c'est pas mal.
C'est ça.
Est-ce que t'as un petit scoop à nous dire comme ça pour finir?
Eh bien, écoute, un petit scoop. Claude Barras est un monsieur très, très gentil. Un monsieur avec qui on a pu discuter un peu et qui était assez, assez débordé, mais qui est d'une sympathie assez incroyable et vraiment les pieds sur terre. Donc vraiment, s'il écoute l'émission, je le salue.
Dédicace.
C'est ça.
Très bien. Eh bien, écoutez, on finit cette deuxième partie avec Johnny Cash et One. Et juste après, on reparle justement de toute la programmation qu'il y a eu au festival. Raymond Depardon et le cinéma sicilien notamment.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. and I can't be holding on to what you've got. When all you've got is hurt, one love, one blood, one life, you've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.
Dernière séance.
L'émission ciné et série de Radio Campus Angers.
Troisième partie sur le 103 FM sur les bonnes ondes. C'est Vianney Henry et toute l'équipe de dernière séance. Et on parle maintenant, donc toujours de premier plan. On va faire un petit peu, on va un peu discuter sur toutes les rétrospectives qu'il y a eu, notamment sur Raymond Depardon et Claudine Nougaret, qui ont une grande filmographie, notamment de documentaires. Tu nous fais une petite biographie, Capucine, savoir qui est Raymond Depardon, parce que tout le monde ne le connaît pas.
Je vais faire une petite rétrospective dans la rétrospective.
Waouh.
Oui, merci. De Raymond Depardon.
C'est ça.
Rentrons pas trop dans le littéraire, mais bon. Donc, Raymond Depardon est né le 6 juillet 1942 à Villefranche-sur-Saône.
C'était une bonne période pour naître.
C'est pas le débat. Pour l'instant, nous n'avons pas le temps d'aborder ce sujet. Avant de parler de cinéma et de documentaire, il faut savoir que Raymond Depardon a un grand passé dans la photographie.
Ouais.
Il va découvrir la photographie à l'âge de 12 ans, après que son frère lui a offert un appareil photo. Bon, comme beaucoup de grands cinéastes ou artistes.
Très bien.
Wouh, super. Et donc, il a commencé à prendre des clichés en fait, dans sa ferme familiale. Et c'est un certain Lucien Dune qui lui transmettra tout son savoir en matière de photographie. Après son certificat d'études, il va devenir apprenti dans une boutique de photographie dans sa ville natale, donc à Villefranche-sur-Saône, et va suivre des cours par correspondance de photos. En plus de ça, il va installer un petit laboratoire de photos dans la fameuse ferme dans laquelle
D'accord,
il prenait
okay.
des photos de base. Bon, voilà. En 1958, il va devenir l'assistant de Louis Fouchereau à Paris, qui va monter à Paris. Sauf que l'année d'après, donc 1959, Fouchereau va s'associer à Dalmas pour créer l'agence Dalmas. Et il ne pourra plus avoir Raymond Depardon en tant qu'associé, enfin en tant qu'employé, pardon. Donc il va devenir pigiste pour cette agence-là, mais il ne sera plus l'assistant. Et puis bon, bah voilà, je pense que Raymond Depardon, on peut le dire, avec sa persévérance et son travail et son talent hein, aussi,
ouais.
va finir par être reconnu en tant que photographe, notamment en 1960, puisqu'il va partir au Sahara avec 800 francs et l'agence Dalmas, justement, en expédition, poursuivre donc une expédition, comme je le disais, dont l'objectif était l'étude de la résistance du corps à la chaleur.
Mmh.
Et en fait, coup de la fortune, au même instant, il y a 7 jeunes du contingent qui vont se perdre en allant chasser la gazelle au Sahara. Et en fait, l'expédition va partir à leur recherche.
D'accord.
Ils vont en retrouver 3 sur 7, enfin en sauver 3 sur 7. Et en fait, Depardon va capturer ce fait divers. Donc, c'est voilà.
Il va les
le
suivre avec leur caméra ou l'appareil photo du coup ?
Les deux, en fait.
Okay.
Il y a un reportage, j'en parlerai après, qui
ouais,
sortira
ouais.
ensuite.
Okay.
Voilà, et en fait, c'est ça qui va un petit peu le faire décoller, puisqu'il va ramener des images de ça.
Énorme.
Et donc, sa cave va décoller. Il faut savoir qu'il a aussi capturé la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam.
Ouais.
Bon, voilà. C'était aussi un paparazzi.
Ouais,
il suivait les
présidents, notamment.
Oui, notamment.
On va en parler.
Et en 1966, il va fonder sa propre agence avec Gilles Caron, donc l'agence Gamma. Et la transition
oui, vas-y.
De Pardon, donc c'est la photo comme je l'expliquais, mais c'est aussi le cinéma. En 1969, il va filmer la cérémonie de Jan Palach. Alors désolé si j'écorche son nom, c'est un jeune Tchèque qui s'est immolé par le feu pour protester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie.
D'accord.
En 1974, il tourne un film sur la campagne électorale de Giscard d'Estaing, sous d'ailleurs sa demande.
Qui est passé au premier plan, on va en parler. Hein,
on va en parler, qui donc a été censuré, qui ne sortira
ouais.
en fait au cinéma qu'en 2002. Donc 1974, une partie de campagne. Petite parenthèse, donc, tu l'as dit, mais en effet, Depardon a fait beaucoup de portraits d'hommes politiques, notamment, et c'est lui qui a fait le portrait officiel de François Hollande en 2012 lors de son élection.
D'accord.
Ouais.
en 1977. Il sort Numéro Zéro, qui est la jeunesse du Matin de Paris, nouveau quotidien de Claude Perdriel. Depardon avait l'habitude de filmer sans ingénieur du son. C'est sa manière de faire pour être dans le cœur du sujet, en fait. Donc, il avait juste sa petite caméra et son petit micro au-dessus.
Okay.
Et pour que ce soit plus naturel, plus profond et plus pur. En 1979, il s'en va en Afghanistan pendant 5 semaines pour suivre des maquisards. Et ce documentaire, accompagné de photos et de textes, sera publié sous le titre de Note pour Arfuyen. J'arrive pas trop à le dire non plus.
Ouais, bon. C'est des noms compliqués, quelquefois.
Bah, c'est pas français. Oui, petite blague à part.
Petit dérapage en direct.
C'est en direct ? Non,
oui,
c'est pas en direct. Bien sûr, c'est ça.
Enregistré, mais on le coupera pas, bon. On le laissera.
Donc, je vais citer quelques-uns de ces films dont on va parler après. Donc, ouais. Un reporter, Pékin Central, dans lequel il était directeur photo, Fait divers, Délit flagrant, qui va recevoir d'ailleurs le César du meilleur documentaire, Dixième chambre, Instant d'audience, ou encore Profil paysan. Ouais. Tant de films et de nominations qui font de Depardon l'un des plus grands réalisateurs de documentaires. Je vous poserai la question ensuite si vous êtes de cet avis-là. À 77 ans, Depardon est entré dans l'histoire et a assis son indépendance. Avec Claudine Nougaret, donc son épouse et son ingénieur son, c'est vrai qu'en fait, on parle très peu du fait qu'ils sont ensemble.
Ouais.
C'est le côté professionnel qui est le plus accentué, on va dire.
Oui.
Leur objectif est simple, regard et écoute au creux d'un cinéma exigeant.
C'est beau.
Merci.
Belle fin. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de documentaires, notamment sur, ils ont fait le Journal de France, où ils faisaient tout le tour de France pour voir les paysans. Antoine, t'en as vu toi des documentaires,
ouais,
je crois.
Ouais, j'ai vu pas mal de Depardon. J'ai vu 12 jours, j'ai vu Profil paysan, j'ai vu Les habitants.
Et
j'ai vu Valéry Giscard d'Estaing.
Et Giscard d'Estaing, ouais, tu vas en parler un petit peu, je crois.
Bah,
vas-y.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un point commun entre tous ces films, c'est qu'il arrivait à, il arrive à se faire oublier. Ça,
ouais.
C'est exceptionnel. Moi, celui qui m'a, enfin, j'adore vraiment son travail. Je trouve que en fait, il capte des instants. Il va chez les gens. Le mec arrive à filmer des cuisines. Donc des endroits quand même assez intimes, et les gens oublient qu'il est là. Et c'est tout bête, mais tu te retrouves avec des scènes de la vie quotidienne, vraiment, c'est très touchant, quoi. Il va aller chercher, un peu de tout. Il s'est attaqué donc au monde paysan,
ouais.
Il s'est attaqué à la justice, il s'est attaqué au milieu carcéral, beaucoup à la politique. Donc voilà, son travail est vachement enrichissant pour ce point de vue-là, quoi.
Aux problèmes psychiatriques,
ouais. Il y a eu dans 12 jours notamment
jours,
il a...
Urgence qui était justement sur qui est un film plus ancien qui date des années 80 et qui est justement sur ce milieu des urgences psychiatriques, voilà. Et là aussi justement c'est assez impressionnant parce que c'est des personnes, ces personnes qui filment, elles sont pas forcément enfin habituées aux caméras et vraiment là il arrive vraiment aussi à se faire oublier, ce qui fait qu'elles sont totalement naturelles entre guillemets, ces personnes, et donc on peut vraiment voir comment est-ce qu'elles réagissent.
C'est peut-être ça ce qui fait la qualité d'un grand documentaliste, peut-être, c'est de dire je me fais discret en fait. Il a réussi dans un hôpital psychiatrique alors que c'est très compliqué, il a fallu mettre du temps pour y aller.
Je dirais que son travail il est vraiment rare puisque c'est aujourd'hui peut-être l'un des seuls cinéastes qui arrive à vraiment adopter un point de vue neutre. Par exemple, quand Valéry Giscard d'Estaing lui propose de faire son film de campagne, c'est
ouais.
Chose qui n'avait jamais été faite à l'époque, et bon Dieu que c'est compliqué, parce qu'à l'époque, caméra, pellicule et tout ce qui suit derrière,
ouais, bah oui.
il va pas du tout faire un film qui montre, porter Valéry Giscard d'Estaing sur le devant de la scène, mais il va plutôt proposer un film qui montre juste la vérité. Et dans le film, on se retrouve avec VGE qui est présenté comme un homme, comme un autre, en fait. Et donc, c'est en ça qu'on peut dire que c'est un vrai auteur. Et il fait pareil pour tous les sujets qu'il a abordés.
Il arrive notamment, tu m'avais raconté, à être dans le bureau de Valéry Giscard d'Estaing.
Ouais, ouais.
Valéry Giscard d'Estaing qui est tout seul et qui apprend qu'il est un président.
Ouais, ouais. Il y a des scènes complètement dingues. Il apprend qu'il est président. Donc il est tout seul avec lui. Je crois que c'est dans l'Elysée. C'est une scène folle. Il apprend qu'il est président et il n'y a pas de réaction, en fait. Il est là, il donne des coups de fil à des gens. Il n'a pas l'air très heureux. Et il y a cette scène mythique où, en gros... Depardon le suit à l'épaule et tout, et donc il vient d'apprendre là qu'il est président de la République.
Ouais.
Et en gros, il va à la télé, il change de chaîne. Donc là, il était sur des chaînes qui parlaient de lui, et là, on atterrit sur un vieux feuilleton télé américain. Et c'était complètement déconnecté de la réalité, quoi.
Ouais.
Mais c'est un gars comme un autre. Il y a des scènes où on
le
voit.
C'est là, on peut peut-être se demander est-ce que c'est du réel ou pas, ou alors est-ce que c'est mise en scène.
Ah non, je pense vraiment que non. Depardon n'accepte pas. S'il y a de la mise en scène, je pense que jamais de la vie, il accepterait.
C'est réel, je pense. Hein.
Ouais.
Mais du coup, ce film-là, pourquoi est-ce qu'il a été censuré ? C'est ça ?
Bah, chez Valéry Giscard d'Estaing qui voulait pas...
Il a été censuré parce qu'en fait, il y a une scène après le premier tour de l'élection présidentielle où on voit VGE qui explique sa stratégie pour gagner les élections. Et ouais. En gros, il dit plus ou moins qu'il n'y a aucune conviction politique. Il est là en mode, ouais, bah, je vais faire le gars un peu gentil, qui est sûr de lui, et puis je gagnerai les élections parce que les gens vont avoir confiance en moi. Et le résultat, oui, c'est que la
communication, ce qui est de la communication politique de base. Donc en fait, ouais, c'est ça, il voulait juste ça, pas avoir. Okay, ouais, okay.
Alors ça, c'est peut-être un naïf d'un point de vue du spectateur, mais je pense que VGE à l'époque voulait pas mettre en avant le fait que la politique, ça allait un peu, tu suis le vent, quoi. Il voulait pas montrer ça.
Surtout à cette période où c'était vraiment une période d'effervescence politique dans la société française. Donc
carrément,
ouais, c'est sûr.
Carrément.
T'as vu lesquels, toi, Malo,
moi, j'ai vu que 12 jours, mais même pas au premier plan.
Moi, j'ai vu 12 jours aussi.
Quand il était sorti, on l'avait vu avec Antoine en avant-première au 400 coups, où il y avait Raymond II, pardon.
D'accord.
Et c'était très, très intéressant.
C'est un film assez bizarre, parce que très angoissant dès le début.
Ouais.
Et puis, il filme, en fait, les entretiens des personnes
malades.
Des patients, on va dire. Voilà,
des patients, exactement.
Qui sont avec leur avocat et le juge, qui voient si est-ce qu'ils peuvent continuer à rester dans l'hôpital, etc. Et ils ont quelquefois des réponses très, très directes et très drôles, notamment un qui avait notre âge, 20 ans, donc c'est assez choquant. Et on voit qu'il est complètement fou d'autres tensions. Et il dit « Merci, monsieur le juge. Vous allez voir, quand je serai footballeur professionnel, je ferai un don à cet établissement.
» Donc c'est assez beau. La scène aussi du vieux monsieur qui a 40 ans, qui explique qu'il va aller, en sortant de l'hôpital, il va aller sauver son père, etc. Donc la scène dure 5-6 minutes. Et en fait, à la fin de la scène, il y a une voix extérieure, hors champ, qui explique qu'il a tué son père.
C'est très, très dur aussi.
Il y a ce genre de truc.
Il y a des choses assez dures, mais d'autres choses où Claude Nougaret, Claude Nougaret et Raymond Depardon essayent d'être un peu discrets dans la caméra. Puis à un moment, un client qui se tourne vers eux et qui dit regardez, regardez, zoomez sur mes poignets, etc. Donc, c'est des réactions assez drôles. Baptiste, tu voulais réagir?
Pas plus que ça, mais après, non, je t'avoue que le cinéma, un peu, qui prend une forme documentaire, comme on en avait déjà parlé. La dernière fois, moi, c'est un truc dont je suis de plus en plus féru, en fait, parce que je trouve que c'est le fait de montrer la réalité, c'est une des rares choses dans le cinéma qui peut vraiment faire changer des gens au quotidien. Et tu vois, on voit beaucoup de trucs maintenant sur l'alimentation, etc. Et c'est aussi un moyen d'information différent. Et je trouve ça utile et je pense que ça devrait être développé de plus en plus.
Et plus simple à faire transmettre, en fait.
Ouais, puis intéressant, cher, tu vois.
Et souvent, ça permet aussi de comprendre dans quel monde on vit, entre guillemets, parce que c'est des sortes de reportages, mais beaucoup plus longs, mieux faits, assez réfléchis. Donc, ça nous permet vraiment de comprendre des choses.
Juste pour finir, du coup, sur Depardon, par rapport à ce que dit Malo et Baptiste, ça rentre complètement là-dedans. C'est, donc, un de ses derniers films s'appelle Les Habitants, juste avant 12 jours.
Oui.
Et donc, du coup, il a pris une caravane, il l'a posée sur des places publiques. Il est parti partout en France avec sa femme. Et du coup, il a invité les gens à continuer leur conversation qu'ils avaient dans la rue à l'intérieur de la caravane, en sachant qu'il avait caché les micros, caché les caméras.
D'accord.
Et en fait, c'est très, très fort. Dans des discussions du quotidien, ça nous permet de nous rendre compte des disparités dans la société française aujourd'hui. Et ça en dit très, très long. Ça peut être des discussions, mais vraiment n'importe quoi, hein, sur l'amour, sur la ville, sur les tensions. Il allait en banlieue, c'était très intéressant. Ce que disaient les gens en banlieue, c'est très fort. Et il laisse des passages dans le film. Aucun cinéaste n'aurait laissé ça, quoi.
Bah, c'est ça, en fait. C'est comme c'est un documentaire, il montre la réalité, donc ça passe. Mais si ça avait été écrit, vous voyez.
Et la musique est faite par Alexandre Desplat, pour faire un
lien
parallèle
avec nos anciennes émissions. Ouais, c'est incroyable.
C'est assez marrant de voir Alexandre Desplat bosser avec Depardon, mais je pense que ça prouve qu'il est vachement respecté pour les auteurs émergents comme Desplat, par exemple.
Il n'y a pas de hasard.
Pas de hasard, voilà. Mais super cinéma, un cinéma qui dit la vérité et un cinéma qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Son travail est très rare. Ouais.
On continue à parler de la programmation de premier plan avec le cinéma sicilien.
Dernière séance.
Le cinéma sicilien, beaucoup de rétrospectives, par exemple Le Parrain, qu'est-ce qu'il y avait d'autre t'as vu quoi, Malo, comme film?
Le Parrain.
Le Parrain, Le Parrain qu'on a
vu. Les Sympas, excellent.
Les Sympas, excellent. Est-ce que, Antoine, tu es prêt pour nous parler de ce que c'est, en fait, le cinéma sicilien? Est-ce que c'est pas un genre en particulier, mais c'est beaucoup de paysages et une culture sicilienne qui est montrée à l'écran?
Ah ouais, carrément. Tu me dis quand...
Vas-y, on y va.
Alors... Cette 32e édition du festival Premier Plan est l'occasion de faire une rétrospective sur cette terre riche de cinéma qu'est la Sicile. Forte de 20 films, cette rétrospective a proposé et propose jusqu'à dimanche des films qui parlent d'une manière ou d'une autre de la Sicile. Pour vous faciliter la tâche, nous avons réalisé une liste de 6 films à ne pas louper, à savoir, donc on vous conseille Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, je suis désolé pour mes vieux R, je n'arrive pas à rouler l'air. Les Trois Parrains, évidemment, de Coppola, Le Guépard de Visconti et enfin L'Aventura de d'Antonioni. Donc, traversant les époques, ces 20 films viennent aborder des sujets aussi variés que la place du patriarcat, du machisme, dans Le Bel Antonio par exemple, l'impact de la mafia bien sûr dans La Mafia fait sa loi, on parle également d'indépendance dans Salvatore Giuliano. Enfin, cette rétrospective parle également de la place de la religion, de la pauvreté et plus récemment du coup de la crise des migrants, avec Lampedusa. Alors pour ne pas me perdre dans cette multitude de sujets, j'ai choisi de mettre le focus sur 3 films de cette rétrospective. Pour commencer, j'aimerais vous parler de Cinema Paradiso, donc réalisé en 1988 par Tornatore. Le film nous raconte l'enfance sicilienne d'un réalisateur devenu célèbre dans son pays. Ce film est une véritable lettre d'amour au cinéma de la part de son réalisateur. Tornatore vient mélanger des scènes d'humour avec des scènes d'amour complètement oniriques. Mais le véritable sentiment qui se dégage du film, c'est une merveilleuse nostalgie sublimée par la musique du légendaire Ennio Morricone. Bref, pour tous les amoureux du cinéma et de la vie, allez voir Cinema Paradiso, vous en ressortirez avec un grand sourire empreint d'une sorte
de nostalgie.
De nostalgie, une tristesse heureuse. Voilà. Ouais. C'est pas facile.
Baptiste, tu disais Baptiste ?
Ensemble en début d'année, et je sais que Antoine était très ému.
Mais Antoine, dès qu'il s'agit de films italiens, il pleure.
Moi, les films italiens, d'histoire d'amour, c'est dur.
Ton enfance ?
Pas du tout. Mais j'aurais bien aimé ce type d'enfance, je le cache pas. Alors, évidemment, du coup, je me devais de vous parler de la trilogie du Parrain, sortie par Coppola, respectivement en 72, 74 et 90. Donc, on a des chants religieux en fond, c'est parfait pour mon sujet. Donc,
on parle d'Italie, bah oui.
On y suit du coup l'ascension et la chute de la famille mafieuse Corleone aux États-Unis. Donc c'est une œuvre phare de l'histoire du cinéma. Le Parrain est incroyablement complet dans les thèmes qu'il aborde. On y retrouve donc l'amour, la famille, l'ambition, l'amitié, la trahison et encore plein d'autres thèmes.
Et la mafia.
Évidemment.
Les familles.
Quand on regarde ces 3 films, on passe par toutes les émotions et cela est très rare au cinéma. Au-delà de l'aspect émotionnel, ce qu'on peut dire c'est que la réalisation de Coppola est terriblement cinématographique. Je pense à la première scène, par exemple, du premier opus, ouais. Où on met littéralement 3 ou 4 minutes avant de voir le visage de Marlon Brando travaillé. C'est une mise en scène aussi qui est très classique dans sa forme.
Pas énormément de plans d'insert.
On est sur des mouvements de caméra assez simples, du champ contre champ de base. Et en fait, c'est pas des gros blockbusters, c'est pas stylisé comme film. Et donc, du coup, le fait qu'il soit pas stylisé, ça fait qu'il vieillit très bien. Aujourd'hui, on regarde Le Parrain, on n'a pas l'impression que ça a vieilli, parce que justement, la forme est classique.
Et surtout, ce qui est assez marquant, c'est que on riait dans la salle. Alors, je pense pas que le réalisateur l'avait fait pour qu'on puisse rire, en fait, mais les réactions et peut-être tout ce qui est patriarcat. À un moment, un des acteurs dit, sa femme lui parle, lui dit non, tais-toi, mets la table. Tu vois, c'est aujourd'hui, on se permettrait pas de dire ça, mais comme c'est un film d'époque, ça nous fait rire.
Dans cette culture italienne et encore plus sicilienne en fait, par exemple pour les Siciliens, les Italiens du Nord ont deux tensions.
D'accord.
Alors que quand un Français va en Italie du Nord, on a l'impression d'avoir deux tensions. C'est une culture où les gens font beaucoup de gestes, je vous apprends rien, et s'expriment vraiment de manière très ouverte. Et donc du coup forcément il y a beaucoup de scènes rigolotes qui peuvent en déduire pour notre culture, alors que pour eux ça va pas du tout les choquer. Pardon. Donc pour beaucoup de monde, le meilleur film de la saga, c'est le 2. Mais personnellement, je dois vous avouer que je suis complètement fan des 3. Donc par conséquent, il m'est impossible de véritablement vous aiguiller.
Non mais ça va pas là. Non, nous on veut que tu... C'est
hyper. Le 2 est vraiment cool. La scène à Cuba est splendide.
J'aime bien le 4. Hein. Coppola me l'a montré en avant-première.
C'est un court-métrage en fait, tout simplement. C'est ça.
Donc la seule chose que je peux faire, c'est de chaudement vous recommander de découvrir ou de redécouvrir ce monument du cinéma mondial.
Même si c'est vrai que 3 heures, ils sont disponibles sur Netflix, mais 3 heures, c'est très long. Nous, on l'a vu dans une grande salle. Non, mais ça passe très bien, mais nous, on l'a vu dans une grande salle avec un grand écran et tout. C'est beaucoup plus agréable que de regarder sur sa télévision.
Ne l'écoutez pas, chers auditeurs.
Non, en vrai, c'est vrai. Moi, je sais que je l'ai regardé comme une série, entre guillemets. Je regardais une heure par une heure et ça se fait bien. Hein. Okay, dans une même journée, mais ça se fait
bien. Ah oui, donc tu coupais le film.
Je coupais le film.
Ce qui est totalement scandaleux.
Honte à lui.
C'est pas un match de foot, il n'y a pas de mi-temps.
C'est comme on ne coupe pas ses pattes, on ne coupe pas le pas.
Je n'ai pas. Comme ça, j'ai pu regarder les 3 heures et les apprécier tout autant.
Bon, ouais, écoute.
Non.
Chacun fait comme il veut.
Je peux pas faire ça. Alors, pour finir, je voulais aborder Le Guépard de Visconti.
Ça aussi, très long.
Très long. Alors, ça serait intéressant qu'Élise, tu viennes en parler. Donc, du Guépard.
Élise qui est bénévole.
Avec Baptiste.
Également, donc, un premier plan. qui était allé, tu es allé chercher des personnes, c'est ça, à la gare tout à l'heure, non?
Non, j'étais en train de regarder d'écouter une lecture de scénario.
Ah oui, d'accord, donc tu n'étais même pas en train de travailler, quoi.
Non, mais je bossais ce matin, Yann, excuse-moi.
Très bien, parce que ton job, c'est d'aller chercher les réalisateurs à la gare d'Angers, de les ramener
oui,
au centre des congrès. Oui,
réalisateurs, invités, programmation et aussi intervenants.
Sympa comme job.
C'est très sympa.
Donc tu nous parles de Guépard, tu l'as vu?
Ouais, je l'ai vu.
Je résume peut-être avant pour les
auditeurs. Très bien, résume les 3 heures.
Donc pour résumer rapidement ce film, donc, j'ai fait un copier-coller Wikipédia. Alors,
ça,
donc,
ça.
On cite les sources. Non, mais parce que, en fait, c'est très dur à résumer. En fait, en mai 1860, après le débarquement de Garibaldi en Sicile à Marsala, Don Fabrizio Salina assiste avec détachement et mélancolie à la fin de la noblesse. Ces gentilshommes qu'on appelle donc les guépards comprennent que la fin de leur supériorité morale et sociale est désormais proche. Donc, je ne l'ai pas vu, donc je voulais que Baptiste et Elise, qui l'ont vu, nous fassent un retour.
Vas-y, honneur aux femmes.
En allant voir ce film, déjà, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, en fait. Donc, du coup, j'ai laissé vraiment découverte m'envahir. Et j'ai trouvé ça sublime, vraiment, au niveau des costumes. Les acteurs sont magnifiques. Et en fait, c'est un film incroyable, déjà, pour l'histoire du cinéma. Car il faut savoir qu'en fait, la scène de la danse, ouais. tu vois ce que c'est,
ouais,
très, très longue dans le film. En fait, a duré 50 jours de tournage et a fait couler la boîte.
Non.
Si. Donc vraiment, en fait, c'est un tournage qui a duré ultra longtemps.
Couler la boîte
longtemps.
De production qui
ouais.
produisait le film.
Oui.
Et ils ont réussi à finir le film quand même.
Ils ont réussi à finir le film, mais endettés à un point incroyable. Ouais. Et du coup, c'est... en fait, quand on voit ce film, en fait, je savais pas cette anecdote. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte à quel point c'est un film important pour l'histoire du cinéma et aussi pour l'histoire du cinéma italien. Et c'est vraiment magnifique à voir et je suis contente.
Et puis il y a un acteur français à l'affiche. Hein.
Deux.
Trois.
Il y a Serge Reggiani.
Ouais. Ah, il y a Reggiani.
Ouais. Il y a Reggiani, Alain Delon et Claudia Cardinale.
D'accord, ok.
Et les trois sont superbes.
Le fameux bisou d'Alain Delon.
Ouais.
Ouais, qu'on voit dans le générique de premier plan.
Dans la bande-annonce.
Et puis t'as Burt Lancaster aussi qui joue le. Je sais plus qui.
Il joue l'oncle en fait.
Mais
le
qui
prince.
Est excellent, qui est
il joue le prince.
Peut-être un des plus grands acteurs du 20e siècle. Quoi, et du
tu coup, dis ça à chaque émission, qui est un grand acteur.
C'est vrai,
ça.
Mais lui vraiment, ça, dans le film, il est très bien.
Rapidement.
Moi j'ai beaucoup aimé, alors en fait le Guépard c'est un film, tout le monde vous dira qu'il est très long, mais une fois qu'on est rentré dedans, c'est très agréable. Je suis désolé, ça a un peu des connotations sexuelles, j'essaye d'enlever ça de votre tête.
T'es tout le seul à avoir remarqué ça, nous on l'a plus tout remarqué.
Mais non, c'est vraiment un film qui est magnifique, comme l'a dit Élise, en termes de, enfin c'est filmé dans un genre de château, enfin...
Ouais, c'est le palais en fait.
Ouais, le palais ouais. Et les scènes sont absolument dingues. Et puis l'interprétation quoi. Moi c'est surtout le début du film qui m'a marqué parce que tu vois un peu une opposition entre, enfin tu sais, une guerre civile un peu en Italie. Je saurais pas te dire un peu la période historique, mais ouais c'est un film qui m'a vraiment bien plu. Ouais.
En fait c'est passé un peu la même chose qu'en France. En gros c'est la noblesse qui va céder le pouvoir à la bourgeoisie quoi. Ouais, grosso modo.
Et puis Alain Delon quoi. Voilà. Alain Delon.
Dans sa jeunesse.
Ouais. Et c'est très drôle aussi comme film.
D'accord, ok.
Ouais, enfin moi je ne pensais pas rire.
Et est-ce que vous n'avez pas vu le temps passer? Vous êtes dit.
Les 3 heures, on les sent. Enfin, ouais. Moi par contre, tu vois, première partie du film,
ouais.
Je trouve qu'il y a des longueurs.
Ok, bah.
En fait, c'est à partir du moment où il y a Claudia Cardinale qui rentre,
ouais.
Elle réveille le truc quoi.
Et pendant, j'ai pas trouvé ça drôle du tout.
Ah, j'ai trouvé ça très drôle. Bah, très drôle.
Ouais, non mais.
Mais c'est très fin comme humour. Et
ouais, ouais.
Enfin, après, moi, ouais. Quand j'étais, c'était une salle assez âgée. Et je sais que j'ai un humour assez vieux, du coup j'ai...
Élise, un humour des 60.
À la Anne Roumanoff, quoi.
Merci, pas du tout. Non mais du coup j'aime bien un peu cet humour un peu de vieux, enfin les comiques un peu faciles et...
D'accord.
Voilà.
Du coup, est-ce que vous répondriez facilement à cette question?
Dernière question, vas-y.
Est-ce que c'est un film exigeant à voir ou pas en fait? Elle est là la question.
Pas exigeant, nécessaire je pense, parce que déjà Alain Delon c'est peut-être l'un des plus gros films de sa filmographie avec Plein Soleil et
Le Cercle Rouge,
La Piscine,
Le Cercle Rouge, Le Samouraï,
les
samouraïs.
Donc en fait c'est pas son propre.
Non mais pour moi Le Guépard c'est le plus important quoi.
Okay. Au niveau mondial c'est son plus connu je pense.
Oui bah oui.
Ah oui, déjà s'il est italien
c'est
aussi.
Un peu le James Dean français.
Très bien, merci à vous pour toutes ces rétrospectives, tous ces films. Le festival étant terminé, vous pouvez peut-être les revoir, acheter les DVD, etc. C'est toujours agréable. Je finis par un petit quiz sur premier plan quand même, les gars.
Allez.
Alors, je vais vous poser des questions. Vous allez me... Puis on va voir si vous arrivez à répondre, sinon on va adapter les règles, d'accord? T'as pas de micro, Capucine? Bah vous partagez tout ensemble. Est-ce que vous savez en quelle année a été créé le festival, le premier plan?
Alors, 32e édition, donc attends.
En 32, Narvalo.
Ça, bah, fait 77.
Non.
87.
Non.
Je veux dire 84.
Non.
88. Ah non, bah 89.
86.
89.
89.
Bravo, Baptiste. Voilà.
Le film du jour sur Instagram.
Deuxième question. Agnès Varda a été présidente du jury en quelle année?
2018.
2014.
Non. 2017.
C'est moins.
2016.
C'est moins.
2015.
Moins.
2013.
Non, non.
C'est en 2011.
Alors, est-ce évidemment. Que c'est en 2005?
Oui.
Ou en 2000?
Non, c'est 2005. Non, c'est 2007.
Non. 2000. Élise a dit 2000. Bien vu, Élise. C'est en 2000. Est-ce que Jeanne Moreau a déjà été présidente du festival?
Oui, oui.
Quelqu'un sait l'année?
1997.
Pas du tout.
1992.
Non, c'est en 2000 aussi.
2006.
Non.
3.
2003, Antoine a un point.
Sachant que Jeanne Moreau est l'icône dans la rue des 400 coups, c'est rue Jeanne Moreau.
Maintenant, ça a été rebaptisé. C'est ça. Ouais, ouais.
Et c'est elle aussi qui a créé les ateliers d'Angers avec Claude-Éric Poirot. Ouais.
Une grande femme dans notre ville d'Angers. L'année dernière, il y a eu le film Les drapeaux de papier. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu?
Ah oui.
Est-ce que tu sais ce qu'il a gagné, Élise?
Prix du public, long métrage.
C'est ça, long métrage français.
Le réalisateur, il avait pas 19 public. Ans?
Ouais, c'est ça.
Le mec a 19
ans.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Le mec ou le film?
D'accord. Avec Noémie Merland, notamment dans.
Noémie Merland, Guillaume Gouix. Et il y a aussi Alison Paradis qui fait une petite apparition.
Ah, donc à 19 ans, premier long métrage.
Ça va.
Nous, on est sur dernière.
C'est respectable.
On est sur un mec qui va avoir la carrière de Xavier Dolan.
Dernière question de cette émission spéciale premier plan. Juliette Binoche, c'est la présidente du jury long métrage. Elle a joué. Dans quel film n'a-t-elle pas joué? Est-ce que c'est dans Chocolat? Est-ce que c'est dans 8 femmes? Est-ce que c'est dans Double Vie ou dans L'Épreuve?
Chocolat. Chocolat.
8 femmes.
Dans 8 femmes, bien vu, Baptiste. Elle n'est pas dans 8 femmes. C'est Catherine Deneuve qui est dans 8 femmes. Et oui.
Oui, c'est vrai.
Et oui, et oui.
Et elle chante, je crois.
Et elles chantent tous, je crois.
Elles chantent toutes.
Elles chantent toutes, ouais.
J'ai qu'un seul extrait.
On va conclure cette émission. Merci à tous, il est temps de se quitter. Merci pour cette émission en direct du Centre des Congrès. Bonne
merci
année
à toi.
On est toujours en janvier, on peut toujours se sauter.
Jusqu'en avril, après tout.
Et vive premier plan, quand même.
Vive premier plan, ouais.
Et puis merci premier plan.
Merci premier plan, ouais.
Merci de nous avoir accueillis. On se retrouve l'année prochaine. Bon, ça va aller. Merci, là, je peux en placer une.
Merci Radio Campus.
Merci, Yannet.
On remercie nos invités qui sont malheureusement tous partis. Ils avaient des séances, ils avaient plein de choses à faire. D'avoir été présents. Merci à tous pour cette émission. Et on se retrouve dans 15 jours. Oui, là, on a fait deux émissions d'affilée, donc là, on se fait une petite pause. Et on se retrouve dans 15 jours, toujours 21h, le mardi soir, sur Radio Campus. Ciao, ciao.
La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
À retrouver un podcast sur radiocampusangers.com.